Quel Dieu de grâce! Imaginons que Dieu, s'adressant à nous, nous demande de quitter notre pays, de quitter notre belle maison, celle qu'on a aménagée au fil du temps avec nos économies pour qu'elle soit un petit bijou, un chef-d'œuvre, quittant notre belle salle à manger, notre belle cuisine, notre belle terrasse, notre beau jardin. Et puis, que Dieu nous demande de prendre uniquement avec nous notre épouse, nos enfants, notre voiture, et puis qu'il nous dise, j'ai un plan pour toi, j'ai un projet pour toi. Roule, je te dirai plus tard où je veux t'amener. Je ne suis pas convaincu que nous répondrions affirmativement, directement, à l'appel du Seigneur. Sans doute que nous lui demanderions quelques éclaircissements, quelques détails, quelques explications. Mais Seigneur, où veux-tu m'amener? Pourtant, bon nombre de personnes de foi, à travers l'histoire de la mission, à travers l'histoire de l'Église et à travers la parole de Dieu, ont répondu à l'appel de Dieu sans se poser de questions. Et je pense comme au passage à cet homme, ce riche commerçant de Lyon, un jeune homme qui avait fait fortune dans le textile et qui, en lisant la Bible, parole de Dieu, a pris à la lettre cette parole de Jésus, si tu veux me suivre, vends tous tes biens, donne tout ce que tu auras récolté aux pauvres et suis-moi. Et c'était Pierre Valdo qui a été à l'origine de ce mouvement des pré-réformateurs qui ont été les Vaudois. Ils ont été appelés les pauvres de Lyon. Il a exercé un ministère dans la ville de Lyon et puis il a été persécuté par l'Église officielle. Il est allé se réfugier dans la vallée du Piémont. Et puis là, il s'est organisé clandestinement pour fonder ce qu'on a appelé l'Église vaudoise. Et j'aimerais bien rappeler avec vous, comme vous l'avez sans doute deviné à travers cette petite introduction, rappeler avec vous l'histoire du patriarche Abraham. On connaît bien son histoire, on connaît bien son appel, mais j'aimerais rappeler une partie du récit d'Abraham relatif justement à son appel. Et nous lirons pour cela dans le livre de la Genèse au chapitre 12, les 4 premiers versets. Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source, ou bien tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsque il quitta, on peut lire le verset 5 aussi, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Abraham est un personnage ô combien important. Important pour beaucoup de peuples, important pour les Arabes par Ismaël, important pour les Juifs, important pour les chrétiens aussi. Les chrétiens sont aussi appelés en Galates chapitre 3, versets 7 à 9, les fils d'Abraham par la foi. Donc Abraham est un personnage important pour les trois grandes religions, on peut dire. On note plus de 40 références à Abraham dans le Premier Testament ou dans l'Ancien Testament, contre plus ou moins 75 dans le Second Testament. Alors l'appel d'Abraham n'a pas eu lieu, comme on pourrait le croire lors d'une première lecture superficielle du texte que nous avons lu, à Haran, mais bien à Ur en Chaldée. Lors de son séjour à Haran, Abraham avait déjà reçu l'appel de Dieu. Et il nous faudrait lire le premier verset, non pas au présent, comme le suggère la plupart des traductions, l'Éternel dit à Abraham, mais plutôt au plus que parfait, comme le propose la Bible Martin, dont notre frère a fait référence tout à l'heure dans sa présidence, et comme le propose aussi la Bible Darby, Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays. Donc l'appel de Dieu avait déjà eu lieu bien avant que Abraham s'installe pour un séjour plus ou moins long à Haran. Et puis, tout se confirme par ailleurs encore dans la parole de Dieu en acte 7, versets 2 et 3, à travers ces paroles d'Étienne peu de temps avant son martyr, où nous lisons, lorsqu'il s'adresse à ses frères, aux Juifs, en témoignant du salut en Jésus-Christ et de l'histoire du peuple d'Israël qui a toujours été caractérisé par une ingratitude, par un cœur dur. « Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparu jadis à notre ancêtre Abraham quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran, et il lui dit « Quitte ton pays, ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » En Mésopotamie, entre les deux fleuves, c'est-à-dire à Ur, en Chaldée. Abraham part donc de Ur, cette localité qui se trouve pas loin du golfe Persique, presque en bordure du fleuve l'Euphrate. C'est là où les poules ne parviennent pas à pondre d'ailleurs, mais je vous donnerai les explications après si vous venez me trouver. C'est une boutade, hein. Ur en Chaldée se trouve donc à proximité du fleuve Euphrate, une ville magnifique. Et la découverte archéologique qu'on a faite en 1854 a permis de confirmer que Ur, effectivement, après avoir fait une excavation dans le Tell, était effectivement une ville, une civilisation. Ur connaissait une civilisation hautement développée. Il y avait des artisans, il y avait des ouvriers qualifiés, il y avait un certain luxe dans cette ville de Ur en Chaldée. La maison, c'est-à-dire les parents, la famille d'Abraham, était quant à elle bien moins que pieuse. Et on aurait pu attendre de la part de son père Terah qu'il soit un homme qui respectait Dieu, qui craignait Dieu, qui avait élevé ses enfants, Nahor, Haran et Abraham, dans la conception de la pensée d'un Dieu unique, contrairement à ce climat polythéiste dans lequel vivaient ses contemporains, mais rien de tout cela. Abraham était le père d'Abraham, Nahor, était à l'origine un idolâtre, et c'est Josué, le successeur de Moïse, qui déclare ceci en Josué chapitre 24, verset 2. Voici ce que je déclare. L'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Terah ou Terak, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux. Donc, le père d'Abraham n'était pas un croyant, ne croyait pas en ce Dieu unique qu'est l'Éternel. Alors, c'est le climat dans lequel a grandi, a vécu Abraham durant sa jeunesse, et rien de moins étonnant que Dieu lui-même lui ait demandé de quitter la maison de son père. La première application qu'on peut tirer de ce récit d'Abraham, c'est quoi ? C'est la dimension de sa foi en la parole de Dieu. La foi d'Abraham. Hébreux 11, verset 8, un chapitre qui est bien connu parce qu'il rappelle tous ces héros de la foi qui ont vécu sous l'ancienne alliance. C'est par la foi, nous dit Hébreux 11, verset 8, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi, lors de sa vocation, qu'Abraham partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham aurait pu alléguer avancer tous les arguments possibles et imaginables pour contester l'appel de Dieu, pour ne pas répondre favorablement à l'appel de Dieu. Il était bien à Ur en Chaldée. Il avait son confort. Il bénéficiait d'une belle maison. Il vivait dans une ville qui connaissait la pointe au niveau de la technologie de l'époque. Il était bien avec ses amis. Il était bien avec sa famille, avec ses parents, dans ses activités. Et malgré tout cela, Abraham a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Abraham aurait pu dire à Dieu, « Seigneur, tu m'appelles, mais j'ai 75 ans, tu vas quand même pas me demander de prendre mon bâton de pèlerin pour partir à un endroit au sujet duquel tu ne me dis rien. » En plus, il aurait pu dire à Dieu qui s'adressait à lui pour la première fois, « Mais je ne te connais pas. Qui es-tu ?» Abraham aurait pu dire, « Mais je suis bien ici. J'ai envie de rester dans mon pays. Tu me demandes de quitter mes terres, de quitter ma famille, de quitter mes amis, de quitter mes activités et tout le reste. » Mais plutôt que de rester à Ur, dans ce climat d'idolâtrie perceptible, Abraham a répondu favorablement à cet appel de Dieu. Abraham a dit oui à Dieu. Abraham a fait preuve de foi en la parole de Dieu. Et Abraham nous montre que sa foi ne s'est pas attachée à toutes les circonstances dans lesquelles il vivait. Abraham nous montre que sa foi n'a pas été guidée par ce qu'il pouvait ressentir, par les émotions qu'il pouvait ressentir. La foi d'Abraham n'a pas été guidée par des raisonnements humains qui étaient censés. La foi d'Abraham n'a pas été guidée non plus par ce qu'il pouvait voir, entrevoir ou connaître. La foi d'Abraham a été motivée uniquement par ce qu'il a entendu, par rien d'autre. La foi d'Abraham est allée au-delà de ses perceptions, en quelque sorte, sensorielles. Il n'a pas vu, il n'a pas connu, il a quitté la proie pour l'ombre, on pourrait le dire, il savait ce qu'il quittait, mais il ignorait tout du pays dans lequel Dieu voulait l'envoyer. Abraham a fait preuve. Ben, c'est ça la foi finalement, d'une foi qui a dépassé ses perceptions. La foi, nous dit la parole de Dieu, ben, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Abraham a entendu la voix de Dieu, a entendu l'appel de Dieu, a entendu la parole de Dieu, et il y a cru. Comme les disciples, en citant quelques exemples, lorsqu'ils étaient dans la barque, pendant toute la nuit, ils avaient essayé de pêcher. Et puis Jésus leur a dit, « Mais jetez votre filet. » Alors il y en a bien un qui a dit, « Ben, Seigneur, on a essayé toute la nuit, mais... » Et puis ils ont quand même écouté la voix de Jésus, ils ont fait preuve de foi, ils ont jeté les filets, et puis ils ont remonté les filets qui étaient pleins à craquer. On peut aussi mentionner un autre exemple, comme l'exemple d'Élie, qui pour échapper à la sécheresse a écouté aussi la voix de Dieu et y a obéi. Quand Dieu l'a envoyé au torrent de Kérit, où il a été nourri par des corbeaux de façon surnaturelle, et quand il a été abreuvé par le torrent, qui était un des rares points d'eau, peut-être le dernier point d'eau à ne pas encore avoir été tari par la sécheresse. Et puis il y a aussi Noé qui a aussi écouté la voix de Dieu, qui a eu foi en cette parole de Dieu. Quand Dieu lui a demandé, dans une région où il ne pleuvait jamais, presque jamais, pour ainsi dire, de construire un immense bateau, les gens avaient beau se moquer de lui, mais lui, il a écouté la parole de Dieu. Et puis, la dynamique de la foi s'est mise en route. Il a construit son bateau et il a été sauvé, lui et toute sa famille. Et tant d'autres exemples de ces géants de la foi. Alors, notre foi est-elle fermement ancrée dans ce que Dieu dit, en ses promesses? Essayons-nous de vivre par la foi en la parole de Dieu. Mon cœur soupire-t-il pour que la parole de Dieu soit vivante et agissante par la foi? Est-ce que je crois en ce que je lis? Est-ce que je crois en cette précieuse parole de Dieu, en ses promesses? 1. Première application, la foi d'Abraham, la dimension de sa foi, croire sans voir, croire au-delà des perceptions. Et la deuxième application qu'on trouve dans ce petit passage que nous avons lu, eh bien c'est quoi? C'est l'obéissance d'Abraham en la parole de Dieu. Abraham a eu la foi en la parole de Dieu, Abraham a aussi obéi en cette même parole de Dieu. Dieu a demandé à Abraham de partir de Ur en Chaldée, quitte ton pays. Et Abraham a obéi. Abraham a obéi. Renoncer à quelque chose pour obéir à Dieu, c'est parfois difficile, c'est parfois pénible. C'était pénible pour Abraham, sans doute, de quitter tout, d'abandonner tout ce qu'il connaissait depuis son enfance, d'être déraciné, finalement, de son fief. Parfois, Dieu nous demande aussi des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui sont pénibles. Dieu peut peut-être aussi nous demander de quitter un pays. Oh, je ne pense pas ici particulièrement à un lieu géographique ou à une zone géographique, mais Dieu peut nous demander de quitter certains pays dans lesquels nous nous complaisons. Le pays de l'envie ou le pays de la jalousie, par exemple. Est-ce que je suis jaloux de tempérament parce que un frère ou une sœur possède ça et que moi je n'ai pas cela? Certains biens, certains dons ou d'autres choses. Dieu me demande de quitter le pays de la jalousie. Dieu peut-être me demande aussi de quitter le pays de l'avarice ou de l'égoïsme. Moi d'abord, moi seulement, moi uniquement, après moi les mouches, Dieu me demande peut-être de quitter ce pays de l'avarice ou de l'égoïsme, pour que je devienne un peu plus généreux, un peu plus altruiste. Dieu peut-être me demande aussi de quitter le pays de la boisson, parce que je suis un contre-témoignage, peut-être pour l'un ou l'autre, ou parce que je nuis à ma santé, ou parce que je fais du mal à mon conjoint, ou parce que je suis une pierre d'achoppement pour mes enfants, parce que je leur fais du mal. Dieu me demande peut-être cela, de quitter ce pays de la boisson. Dieu me demande peut-être aussi de quitter le pays de... Je ne connais pas la vie de les jardins de secret de l'un et des uns et des autres, mais Dieu peut-être me demande de quitter le pays de l'adultère ou de l'impudicité. Peut-être que j'entretiens une relation avec de façon extra-conjugale, avec une tierce personne. Dieu, c'est grave, mais Dieu me demande de quitter ce pays. Quitter un pays pour pouvoir nous rapprocher de Dieu. Finalement, c'est ça. L'ordre de Dieu à Abraham, l'injonction de Dieu à Abraham, quitte ton pays, parce que le pays dans lequel je veux t'amener est bien meilleur que celui-là. Et la qualité de vie dont tu vas bénéficier est bien meilleure que celle dont tu bénéficies à Ur en Chaldée. Je veux avoir une relation beaucoup plus forte avec toi, beaucoup plus intime avec toi, que celle que tu peux avoir avec ces soi-disant dieux, ces idoles. Dieu peut-être me demande de quitter le pays de l'addiction aux jeux. On parle souvent d'autres addictions, mais les jeux, parfois, c'est un fléau, ça peut ruiner quelqu'un. Dieu peut-être me demande de quitter le pays des jeux. Et puis les jeunes aussi, ils sont pas là. Mais ils sont parfois victimes aussi d'addiction aux jeux. Dieu me demande de quitter certains pays pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur. Dieu peut-être me demande de quitter le pays du mauvais caractère. Dieu veut transformer mon caractère. Peut-être que j'ai un esprit lunatique. Dieu me demande de quitter cela. Peut-être que j'ai des soubresauts d'agressivité. Dieu me demande de quitter ça. Peut-être que je suis trop impulsif, trop violent. Dieu me demande de quitter ce tempérament. Quitte ton pays. Dieu me demande peut-être encore de quitter des mauvais gestes que je pratique. Par exemple, je vole peut-être. Je vole dans une grande surface. Ou bien au travail. Ah oui, au travail. Il y a des choses là qui sont neuves. Et dans le magasin, personne ne me voit. Tout le monde le fait. Si c'est pas moi, c'est un autre. Dieu me demande de quitter ça. Dieu me demande de quitter peut-être un esprit de querelle. J'aime bien entretenir les disputes, les querelles, provoquer les gens, les piquer dans leur amour propre. Dieu me demande de quitter cela. Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays idolâtre. Dieu veut aussi que nous quittions le pays de nos mauvaises habitudes. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous amener dans un pays où il y a la paix, la joie, la grâce, l'amour, le repos. Voilà le pays dans lequel Dieu veut nous amener. Conséquence à la vie de foi et à la vie d'obéissance d'Abraham. Quelle a été la conséquence de sa vie de foi et de sa vie d'obéissance? C'est la rétribution. L'équation est simple. Foi plus obéissance égale rétribution. Ou bien foi plus obéissance égale bénédiction. Et Abraham a été béni. Dieu lui a fait 1, 2, 3 promesses. Tu auras, on le voit un peu plus loin, tu auras un pays, tu auras une terre, tu auras un fils, tu auras un héritier, et tu auras une descendance tellement nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Pas plus que les étoiles ou que les grains de sable qui est au bord de la plage. Voilà la promesse de bénédiction faite à Abraham suite à sa foi et suite à son obéissance. Alors, à travers cette descendance qui est faite, à cette promesse de descendance qui est faite à Abraham, Dieu va soulever un coin du voile concernant la venue du Messie. Genèse 12, versets 2 et 3 dit, tu, Abraham, seras une source de bénédiction, donc il en sera à l'origine, une source de bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que toutes les familles de la terre ont été bénies à l'époque d'Abraham? Ça visait une période plus lointaine. Et puis un autre verset, encore, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, verset 22, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Est-ce que la postérité dont il est question là s'attribue à Isaac? Toutes les nations n'ont pas été bénies à l'époque d'Isaac, mais bien plus tard. Qui est donc le sujet, le descendant dont Dieu parle ici à Abraham, si ce n'est la personne même de Jésus-Christ, en qui toutes les familles de la terre, en qui toutes les nations de la terre ont reçu une bénédiction. Et puis Jésus lui-même le dit, hein, dans Jean au chapitre 8, verset 56, Jésus confirme tout cela lorsqu'il dit « Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. » Abraham a reçu la révélation de la venue du Messie, tout comme David, après lui, a reçu aussi. Dieu a soulevé un coin du voile concernant la venue future du Messie, de Jésus. Conclusion. Avons-nous cette même foi qu'Abraham en la parole de Dieu? Est-ce qu'on partage cette même foi qu'Abraham avait dans la parole de Dieu? Dieu me le dit, je le crois. Ça, c'est la foi d'Abraham, toute simple. Avons-nous cette même volonté, cette même docilité qu'Abraham d'obéir à la parole de Dieu? Dieu me le demande, Dieu me le dit, je le fais. Est-ce que nous avons cette même volonté d'obéir qu'Abraham avait lorsque nous lisons la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui? Quitte ton pays. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Et enfin, tout comme Dieu a honoré la foi et l'obéissance d'Abraham, Dieu veut aussi honorer notre foi et notre obéissance. On va lire un dernier passage dans le livre des Psaumes au chapitre 84. Psaume 84. On terminera par cette promesse finalement. Psaume 84. À partir du verset 10. Jusqu'à la fin du chapitre. Les trois derniers versets. Les quatre derniers versets. Du psaume 84. Et le psalmiste dit ceci: toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille autres ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Et enfin, le verset 12, c'est à partir de là que ça nous concerne plus particulièrement. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Dieu ne refuse pas le bonheur à ceux ou à celui qui marche dans l'intégrité, l'obéissance. Et puis, heureux l'homme qui se confie en toi. La foi, obéissance à foi, et plus foi, pardon, égale bénédiction. Que Dieu nous aide vraiment à être sensible à sa parole, à pouvoir la faire nôtre, à permettre que notre foi puisse pleinement s'ancrer dans cette parole précieuse, afin que nous puissions vivre de cette foi, obéir, pour pouvoir bénéficier de quelque chose de meilleur que nous connaissons, que nous pouvons connaître à travers mille autres choses.